Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là, cette 39e foire du livre de Brive. Je suis vraiment honoré de recevoir en cette fin de journée trois auteurs, trois écritures, avec des jeux d'écho assez intéressants et assez fascinants. Nous recevons déjà Antoine Compagnon à l'occasion de la parution de son dernier essai, La vie derrière soi, fin de la littérature avec un S aux éditions Équateur. Antoine Compagnon, vous êtes écrivain universitaire, professeur émérite à Paris, vous enseignez encore à Columbia, et on essaiera de réfléchir avec vous sur la manière dont la littérature réfléchit à ses fins, à ses confins. Qu'est-ce que c'est que le sublime sénile dont vous parlez, et ce rapport d'ailleurs à la main qui tremble, est d'autant plus intéressante qu'elle se réfléchit avec le dernier livre de Noël Châtelet, laisse courir ta main aux éditions du Seuil, cette main qui presque se dédoue, puisque dans votre dernier ouvrage, un peu à la manière de Nathalie Sarraute, et c'est d'autant plus passionnant que quelque chose se joue en vous, un dialogue s'engage entre vous et vous-même, avec, vous l'avez dit très justement dans une interview, cette bibliographie intime qui interroge l'itinéraire d'une écriture à travers cette présence du corps. Et ce corps d'écrivain, on le retrouve chez Sorge Chalandon avec ce texte, ce roman extraordinaire, magnifique, Enfant de salaud, puisque vous-même aussi, vous êtes posé la question du corps, puisque quand vous écrivez, il y a une main gauche qui écrit la fiction, ce qui vous vient, les sentiments, et à droite, ce qui relève du récit. Et pour démarrer cette conversation sur la littérature et la vie, je voulais citer un texte extrait du Plaisir du texte de Roland Barthes, qui dit la chose suivante. Texte veut dire tissu, mais alors que jusqu'ici on a toujours pris ce tissu pour un produit, un voile tout fait, derrière lequel se tient plus ou moins caché le sens, la vérité, nous accentuons maintenant dans le tissu l'idée générative que le texte se fait, se travaille à travers un entrelacs perpétuel, perdu dans ce tissu, cette texture, le sujet s'y défait, telle une araignée qui se dissoudrait elle-même dans les sécrétions constructives de sa toile. Et ce qui m'intéresse dans cette métaphore, avant d'interroger aussi Antoine Compagnon, qui a très bien connu Roland Barthes, c'est ce tissu. On pense évidemment dans le roman de Sorge Chalandon au tissu de mensonges que vous racontez votre père, et comment on fait grâce à l'écriture à défilocher ces mensonges et à passer d'un tissu de mensonges à un tissu de vérité.
C'est une question.
Oui.
D'accord. D'abord, je dois vous dire que je suis extrêmement. Il faut que vous le sachiez, moi je suis un saltimbanque et vous avez deux immenses invités ici. Et je voulais dire que j'étais extrêmement ému d'être avec eux aujourd'hui ici. Voilà, moi je suis juste un romancier. Et voilà, je voulais vous dire que c'était une très bonne idée de nous avoir mis tous ensemble. Mais. Alors moi, je ne crois pas que je. Voilà, juste ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Je voulais vous le dire et je tenais à vous le dire. Je ne crois pas que je détricote le mensonge, en fait. Le mensonge, il est là, il existe, il m'a hanté toute mon enfance et il continue, puisque c'est un ennemi personnel. Mais le mensonge de mon père, tel qu'il m'a été apporté, tel qu'il a été mon socle, ma vie durant, en fait, je ne le détricote pas, je le raconte. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que je suis dans la recherche du vrai, qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux, mais en même temps, tout ce qu'il a raconté de sa vie durant, tout ce qu'il s'est, tout ce dont il s'est prétendu pour se faire valoir, c'était son thème, je veux me faire valoir. Moi, ça continue de m'intéresser pour ce qu'il était. C'est-à-dire que je veux pas m'en défaire. Cet homme et ses mensonges sont mon socle. Et je viens de ces mensonges, je viens de cet homme. Et donc, il y a des gens, comme on dit cette phrase formidable, moi, je tourne la page. Moi, je tourne pas les pages. Jamais. Je les laisse ouvertes, je les lis. D'abord, je les écris, c'est ce qui est une chance. Je les laisse ouvertes, je les lis, je les garde en moi. Je tourne pas les pages. Donc, les mensonges d'un père dont le fils a été accablé, affublé sa vie entière, moi, je les garde comme l'exemple à ne pas faire et je les garde comme les ténèbres, me défaire de ces ténèbres-là pour aller vers la lumière. Mais je veux pas les oublier. Je les fais partager. Mes livres racontent les mensonges de mon père, mais ni je m'en moque, ni je m'y oppose. Je les constate. Et donc, c'est pas que j'aime bien le mot détricoter, mais en même temps, oui et non. C'est-à-dire que je me l'ai réapproprié en faisant un roman, le fameux Mentir vrai. Mais voilà. Donc moi, je viens d'un monde de menteurs, de mensonges et de silence, sans musique, sans beauté, sans lumière, sans littérature, sans musée, sans rien. Et de ce monde-là, c'est grâce à ce monde-là que j'ai appris à m'ouvrir à la lumière et à la clarté.
Et Antoine Compagnon, pour revenir sur ce très beau texte de Roland Barthes qui parle du texte comme un tissu, vous êtes un grand lecteur et un grand relecteur d'œuvres qui vous ont accompagné toute votre vie, Baudelaire, Proust, Montaigne, Pascal. En quoi ces textes-là, ils se sont faits en vous et ils se sont défaits? Est-ce qu'il y a quelque chose qui travaille en vous, indépendamment d'une part qui est presque consciente?
Bon, d'abord, moi aussi, je voudrais dire le plaisir que j'ai retrouvé mes deux compagnons de ce soir. Je connais Noël Châtelet depuis 50 ans. On était très jeunes. Mais tout de même, elle était la très jeune femme de mon professeur de philosophie, qui était François Châtelet. Et j'ai donc été très ému de retrouver l'évocation de François Châtelet, qui était un professeur extraordinaire dans le livre, puisqu'il est là dans beaucoup de pages. Et à l'époque, j'étais pas professeur, j'étais élève à l'école polytechnique et je ne savais pas que je deviendrais professeur parce que je me préparais au métier d'ingénieur. Mais en y réfléchissant dans le train ce matin, je me disais, au fond, je me suis toujours attaché à mes professeurs et j'allais lui rendre visite rue... On peut dire rue Clausel, où tu habites toujours. Tu habites toujours. Après, j'avais mon garage rue Clausel, dans ce que croisait rue Clausel pendant beaucoup d'années. Donc, nous connaissons bien depuis longtemps. Et puis, j'ai lu le livre de Sœur Chalandon avec beaucoup d'émotion aussi. Et je voudrais dire ce qui m'a particulièrement ému. Bon, c'est vraiment... J'ai toujours cru que la force que j'avais dans la vie... venait de ce que mon père et ma mère avaient fait des bons choix pendant la Seconde Guerre mondiale. Et que venait de ça quelque chose comme une sorte d'étoile qui faisait que quelques bêtises que je fasse, et j'ai fait, puisqu'on est à peu près de la même génération, peut-être des engagements des années de jeunesse qu'on ne ferait plus aujourd'hui. Hein. Parce que mon père a fait toute la guerre de 40 à 45, sans interruption, que ma mère a été prisonnière politique, et j'ai toujours pensé que c'était ce qui donnait une énergie et une assurance dans la vie. Et quand je lis le livre, je me dis quel courage il a eu, lui, qui est là, de surmonter ce tissu de mensonges qu'on vient d'évoquer et de trouver, j'ai envie de dire, une autre étoile que celle qui pouvait guider ceux qui, au fond, avaient la chance, parce que les choix étaient très compliqués dans ces années, la chance d'être le fils de parents comme ceux-là. Maintenant, le tricotage et le détricotage des textes. Oui, bon, c'est un livre, c'est ma dernière année de cours au Collège de France. Donc, c'est aussi une réflexion sur 45 années d'enseignement. Bon, j'ai enseigné en France pendant 45 ans. Je continue aux États-Unis, puisqu'en France, on est chassé à un certain âge. On n'a plus le droit de continuer. Et bon, en effet, c'est des textes... Bon, pendant 45 ans, il y a eu là aussi quelques étoiles auxquelles je suis toujours revenu, que ce soit Montaigne, que ce soit Baudelaire, Proust et quelques autres. Et donc, c'est de nouveau un dialogue avec ces textes-là. Et c'est un dialogue, les relire, les retraverser, les défaire, avec cette question qui est celle de qu'est-ce qu'une fin de vie d'écrivain. Alors le titre évidemment est assez ironique, hein, La vie derrière soi, mais il vient de cette très belle citation que j'ai. Il est venu le dernier jour. Le titre est venu, tout était déjà sur épreuve, à cause de cette citation de Le Clésio, être jeune, c'est un peu répugnant. J'aimerais avoir 80 ans, avoir toute la vie derrière soi. Là, on est vraiment libre. Et soudain, il m'est apparu que c'était le meilleur titre que je pouvais donner au livre. Je ne sais pas, Le Clésio disait ça lorsqu'il avait 23 ans.
Il ne le dit là, pas aujourd'hui.
L'âge auquel nous nous sommes connus.
Il le dit moins, il ne le dit plus comme alors, ça, mon cher Antoine.
Je pense qu'il ne le dirait plus de la même façon, mais c'est une très belle vérité. Puis ça joue avec le titre de, d'Émile Ajar.
La vie devant soi.
La vie devant soi, mais qui en même temps écrit sous son vrai nom, au-delà de cette limite...
Votre ticket n'est plus valable.
Donc il y a ce côté, les deux côtés, tenir au-delà d'une certaine limite, le ticket n'est plus valable, et puis voilà, le cycle, le cercle. Donc c'est on tricote et on détricote et on recommence.
Et ce qui est passionnant, c'est que dans cette idée de fin, il y a le rapport à la limite, aux confins et confins de la forme. Et Noël Châtelet, dans Laisse courir ta main, il y a vraiment cette idée d'aller chercher une forme qui soit à même de raconter ce dialogue, cette bibliographie intime. Et ce qui est d'autant plus évocateur, c'est que Antoine Compagnon a lu d'ailleurs un livre qu'il n'avait pas forcément eu l'occasion de lire, de Ernst Kantorowicz, Les deux corps du roi. Et vous, qui avez travaillé, Noël Châtelet, toute votre expérience d'écrivain sur le corps, c'est-à-dire comment on a deux corps, les corps du roi, le corps physique qui meurt et une sorte de corps symbolique. Est-ce que vous pensez qu'il faille passer par ce corps physique sous tous ses aspects pour à un moment donné peut-être toucher un corps qui reste mystérieux, mais un corps qui est le corps littéraire?
Alors, je pense qu'on est en train de faire de l'artisanat, là. Ça m'intéresse parce qu'on a parlé de tissu. Mon livre, si on se met dans un atelier, ce serait plutôt du tricotage et, pour les dames apprécieront, du point mousse. C'est le plus simple. Le point mousse, ça veut dire... Tac, tac, tac. Cette gestuelle-là, j'ai voulu la faire avec moi-même. Vous parlez avec votre père, de lui et avec lui. Vous parlez avec des grands écrivains. Et moi, et pas d'une manière narcissique, je voudrais vraiment le préciser, parce que ça pourrait apparaître comme tel, de parler à son double, je m'interroge moi-même. Je croise le fer avec le double qui est en moi. Et c'est bien parce que il est toujours là. On est toujours sûr de l'avoir à côté de nous. C'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient, parce qu'il est toujours là. Et il pose des questions. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a aussi peut-être à travers ce dialogue sans aménité avec moi-même, parce que mon autre, celui qui m'interroge, ne me fait pas de cadeau. Il est d'une sévérité absolue, qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu protestant là-dedans. C'est pas exclu, dans la mesure où, dans la culture protestante, la conscience est là tout le temps. C'est-à-dire que c'est moins à Dieu qu'on s'adresse qu'avec nous-mêmes devant Dieu. Et il fallait un moment où je devais m'interroger sur cette addiction que j'ai eue au corps depuis l'enfance. Et je suis revenue très très loin dans cette addiction à travers deux scènes primitives. Une scène qui est la scène d'un cochon qu'on éventre dans une ferme et dont je vois sortir tous les organes.
Avec délice. Oui. Enfin, je veux dire que un cochon que l'on noue, généralement, c'est épouvantable, mais dans votre livre, c'est une sorte de, ce sont de belles choses qui.
C'est ça. Et je suis serrée contre mon institutrice. Nous sommes dans le cours de la, dans la cour de la ferme. Elle nous explique que tout ce qui sort du cochon ressemble assez à ce qui sort du corps humain. Et là, je suis fascinée par la beauté de tout ce qui sort de ce cochon. Ça, c'est la première scène. Et je me suis dit, mais si on a ça dans notre corps, nous humains, il faut que j'aille y voir. Voilà. Première scène. Deuxième scène, tout aussi primitive au sens freudien du mot, c'est la scène où je fais mes devoirs auprès de ma mère, qui était sage-femme, mais qui, à un moment donné, a été infirmière auprès de mon père, qui s'occupait d'enfants délinquants. Et je faisais mes devoirs dans l'infirmerie. Et je voyais défiler tous ces jeunes ados qui venaient voilà, pour des bobos du corps en apparence, mais qui, en réalité, venait davantage pour des bobos de l'âme et venait chercher chez cette mère de substitution des caresses qui leur manquaient. Et je pense que dans ma tête de petite fille, je devais avoir le même âge pour les deux scènes, ça a été mais fondamental, fondamental. Je me suis dit, le corps et l'âme sont inséparables. Il faut les interroger ensemble, toujours. Voilà. Et ce corps qui parle... il va nous poser des problèmes parce qu'on ne va jamais être totalement en accord avec lui. Et c'est d'ailleurs le sujet de ma thèse, le corps à corps culinaire. Vous disiez qu'il y avait deux corps, moi j'en ajouterais un troisième, le corps machine, le corps symbolique, où l'inconscient évidemment se mêle, mais j'ajouterais le corps culturel et institutionnel aussi. Et tout ça fait un corps à corps extrêmement compliqué, multiple, complexe, où finalement, on est par, d'une certaine manière un peu en guerre avec soi-même. Et dans ce livre, où je devais me reconstruire, puisque mon corps m'avait lâché, j'ai pensé que de croiser le fer et de m'interroger sur les raisons qui m'avaient poussé à, de livre en livre, effectivement, à creuser ce sillon du corps comme langage, j'ai pensé que c'était le seul moyen de permettre à ce corps de repartir, de se reconstruire. Il était en panne, pour des raisons qu'on comprend à la fin du livre, il était en panne, il ne voulait plus marcher, et la seule chose qui marchait encore en moi, c'était ma tête, mais surtout ma main qui tenait le crayon. Voilà. Donc, dans cette tête, il y avait des choses extrêmement confuses, mais aussi des choses très, très claires. Mais surtout, une envie d'en découdre avec l'autre. Et je pense qu'on ne le fait pas assez. Enfin, moi, je fais partie de ces personnes qui se parlent à elles-mêmes. Je ne sais pas si vous faites ça aussi. Je parle tout haut. Et je parle d'ailleurs à mes morts de la même manière, mes chers disparus. Je suis dans un dialogue, en fait, qui est le dialogue mais naturel. Voilà. Le dialogue mais naturel, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai envie d'écrire pour le théâtre. Et pour cette raison que la pièce que j'avais écrite il y a 3 ans et qui ne s'est pas montée m'a mise en arrêt pendant 4 mois.
Physiquement.
Physiquement, c'est-à-dire que je n'avançais plus. Voilà.
Mais autant on évoquait ces deux corps du roi, ce qui est fascinant chez vous, Sœur Chalandon, c'est qu'on pourrait presque dire, chez vous, je l'évoquais avant, les deux mains, c'est-à-dire la main gauche, la main droite, celle qui écrit ce qu'elle ressent, celle, l'autre de droite, qui dit les faits, et à ce qu'à un moment donné, il n'y a pas il y a un dialogue nécessaire entre les deux, ou est-ce que les deux sont en conflit à un moment donné?
Alors, en fait, c'est plus compliqué que ça, parce que en fait, c'est la page de droite et la page de gauche. Ma main gauche, elle est morte. Moi, j'étais bègue quand j'étais enfant. Je suis né en 52. Je ne sais pas s'il y a eu des gens de mon âge ici. Mais en 52, le bégaiement, c'était interdit. Je suis venu au monde bègue. Enfin, je suis devenu bègue. Et bègue, ça voulait dire ne pas pouvoir assembler les mots. On avait tous les mots en nous. Moi, j'avais tous les mots en moi, mais je pouvais pas les assembler, je pouvais pas les dire. Donc, ma souffrance initiale, c'est d'être gaucher et bègue, parce que j'ai été gaucher contrarié. Donc j'étais bègue, ça veut dire que l'instituteur, et ça c'est quelque chose, maintenant aujourd'hui ça serait en première page de je sais pas quoi, et ça serait la DAS, pimpon, pimpon. Mais l'instituteur, nous étions deux bègues en classe, et il nous attachait la main droite avec notre blouse, pour pas écrire, il nous attachait la main gauche, pour nous interdire d'écrire de la main gauche. Donc on interdit, donc nous écrivions de la main droite. Mais c'était terrible, parce que les adultes, pour moi, c'est les gens qui m'empêchaient d'écrire de la main qui était la mienne, qui était pour moi la main du cœur, qui était la main gauche. Et le bégaiement est venu avec la mort de la main gauche. Ma main gauche est morte, et tout d'un coup, je me suis mis à bégayer. Et comme j'avais le père que j'avais, orthophoniste, tout ça, c'est des mots qui n'existaient pas du tout, qui étaient absolument inconnus à la maison, en tout cas. Et donc, il disait que je faisais tout ça pour lui faire honte. Donc, l'enfant bégayait pour lui faire honte de l'avoir obligé d'écrire de la main droite. Et cette interdiction, moi j'ai toujours pensé que l'oralité me serait interdite longtemps, c'est pour ça que je me suis mis à écrire, d'ailleurs quand même enfant, c'est-à-dire que je passais des mots à mon frère ou à mes parents parce que je pouvais plus les dire les mots. Mais c'est formidable lorsqu'on est bègue parce qu'en fait, c'est pas qu'on n'a pas de mots, c'est qu'on a trop de mots. On a trop de mots en soi lorsqu'on est bègue. Et il faut avoir, là c'est la guerre. Lorsque vous êtes bègue, vous êtes en guerre contre les mots, vous êtes en guerre, alors il faut vous faire des mots un allié en fait. Et si le mot, moi c'est le plus important pour moi, c'était le mot rouge. En fait, lorsqu'on est bègue, on peut pas prononcer son prénom parce que la première lettre de son prénom, le P de papa, le M de maman, des mots qu'on ne peut pas dire parce que c'est pas possible. Et moi, par exemple, le mot rouge, il y avait un R, est très extrêmement difficile. Et un enfant bègue, ben ça m'obligeait moi, le mot rouge, par exemple, ça m'obligeait à avoir des mots de substitution. Il fallait que j'aie des mots comme des soldats qui montent au combat, qui vont prendre une colline. Il fallait que j'aie des soldats au cas où rouge n'arrive pas à combattre. Il fallait que j'aie Garance, il fallait que j'aie Grenat, il fallait que j'aie Carmin, Vermillon.
Et vous voyez rouge.
Et je voyais rouge.
Oui.
Oui.
Mais au sens métaphorique du mot.
Oui.
Vous voyez
et,
rouge.
Et comme le bégaiement c'est le seul handicap qui fait rire. Donc moi j'étais un enfant petit, bègue, etc. Et après, c'est vrai, après quand j'ai commencé à être journaliste et que le bégaiement était un peu plus... Je bégaye toujours quand je suis énervé, quand je suis triste, quand je suis inquiet ou quand j'ai peur, ou quand je mens, ça c'est extrêmement pratique. Quand ma femme me dit « tais-vous », je dis « ok, arrête ». Et ça, c'est formidable. Mais en tout cas, j'écris, mes carnets sont divisés en deux, toujours. Mes carnets de journaliste, de reporter. Moi, je suis pas éditorialiste, moi, je pense pas. Moi, je vois, j'écoute ce qu'on me dit et je rapporte ce qu'on m'a dit, mais je ne pense pas. Je ne pense rien, je ne sais pas. Je suis le contraire de l'informé, moi. Je sais pas. Moi, il faut que je comprenne, il faut que je vois, il faut qu'on me parle, il faut que j'entende, il faut que je touche les choses, il faut que je touche les mots. Et donc, j'ai... Dans tous mes carnets à spirale, effectivement, la page de droite, c'est ce qui était nécessaire à mon journal. 34 ans à Libération, j'ai passé et maintenant 12 ans au Canard Enchaîné. Et sur la page de droite, c'est ce que je vais raconter dans le journal. Et la page de gauche, c'est ce que je ressens. C'est pas pour le journal, la page de gauche. La page de gauche, c'est la page du cœur. C'est la page interdite, c'est la main interdite, c'est les mots interdits. Donc, par exemple, juste un seul exemple, je suis l'un des trois journalistes à être entré dans les camps de Sabra et Shatila au sud Liban, martyrisé par les chrétiens libanais en 1982. Sur la page de droite, j'ai décrit le camp, décrit les morts, décrit les victimes, les cadavres. Et sur la page de gauche, chaque fois que je m'arrêtais, j'écrivais non, 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 pourquoi, pourquoi, pourquoi. Ça, c'est la page de gauche. Pourquoi n'intéresse pas le lecteur du journal. Ce qui l'intéresse, c'est les cadavres, c'est qui a pu faire ça, etc. Page de droite. Mais ce pourquoi du journaliste qui se pose les questions, pourquoi, mais pourquoi, ça n'intéresse que moi. Mais ce pourquoi, il fallait qu'il soit là. Parce que, et je pense que mes romans, en fait, sont la somme de toutes mes pages de gauche. Mes romans sont la somme de tous mes pourquoi, en fait.
Ce corps, on le retrouve évidemment chez vous, Antoine Compagnon, avec cet essai sur la question qui est posée, c'est comment peut-on arrêter d'écrire ? Et c'est un essai incroyablement incarné, c'est une enquête, moi je trouve que c'est l'enquête la plus proustienne que vous ayez faite, parce qu'il y a tout un jeu d'écho avec des leitmotifs qui reviennent. Et il y a cette phrase de Barthes qui disait « la littérature ne permet pas de marcher, mais de respirer ». Et on retrouve avec cette idée de la main, puisque... L'essai, il démarre notamment sur ce constat que vous faites, c'est-à-dire qu'on a parlé plus souvent de la fin des artistes et notamment des peintres plutôt que des écrivains, avec cette main qui tremble de poussin. Est-ce que lors de l'écriture de cet essai, il y a des choses un peu comme la recherche proustienne, des choses qui ne vous semblaient pas là et qui vous sont apparues comme ça au fur et à mesure, sans que vous en ayez vraiment conscience, mais comme si c'était déjà en vous.
Oui, bon, il faut... Bon, il y a cette phrase qui est emblématique de tous les livres, c'est la phrase de Chateaubriand sur l'admirable tremblement de la main de Poussin dans La vie de Rancée. Et en effet, on a parlé beaucoup plus des fins de vie de peintre ou de musicien parce qu'on considère que leur corps est plus engagé dans la production.
Ce qui n'est pas vrai.
Ce qui n'est pas vrai. Ce qui justement n'est pas vrai. Mais c'est l'œil du Titien qui est affecté par la cataracte, c'est la main de... Bon, la main de Poussin, c'était pas Parkinson, mais c'était probablement la syphilis. Mais en tout cas, cette façon qu'ils ont les uns et les autres de produire, de réaliser des œuvres, malgré cette difficulté physique qui est liée à la dégradation du corps, et faire le plus avec ce qu'ils peuvent encore faire. Bon, il y a une phrase de Melville qui est très belle quand il écrit « Billy Budd », qui est une œuvre posthume à la fin de sa vie. Il dit, c'est en anglais, qu'il faut « husband » les forces. « Husband », ça veut dire, c'est le mot « mari », mais ça vient de l'économie. Ça veut dire économiser ses forces pour en faire le plus possible. Et c'est comme ça que j'en arrive à cette idée de ce que j'appelle le sénile sublime, que un certain nombre d'artistes, dans cette économie de moyens, peuvent parvenir à l'essentiel, à une forme de sublime, peut-être Chateaubriand dans La vie de Rancée, ou Beethoven dans les derniers quatuors, ou Rembrandt dans les derniers portraits, c'est-à-dire se débarrasser de toutes les conventions. C'est cette grande liberté. Vous voyez, il y a ce modèle de la liberté qui vient avec l'âge, au contraire de la rébellion de la jeunesse. Nous avons été un peu, nous avons eu des tentations révolutionnaires.
Pas des tentations.
Comment ?
Des tentatives.
Tentatives. tentatives, tentations, enfin des désirs révolutionnaires dans la jeunesse. Oui. Mais c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les désirs révolutionnaires de la vieillesse. Et c'est ceux de personnes qui ont traversé et qui ont elles-mêmes contribué à créer les conventions qu'elles veulent casser. Oui, donc c'est sans doute un livre qui casse un peu 45 années d'enseignement. Mais en même temps, je crois que j'ai toujours enseigné en mettant une partie de ma vie dans les cours. J'ai jamais pu enseigner si ça ne m'affectait pas.
Mais juste parce que, enfin moi, sur les mains, vous citez les mots de Sartre. Oui. Quand Sartre dit rien dans les mains, rien dans les poches, je trouve que c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour l'auteur ou pour l'écrivain ou je sais pas quoi, c'est même plus le corps, c'est rien dans les mains, rien dans les poches, et puis on verra bien. Moi, ce que j'aime dans votre livre, je veux vous le dire, c'est que moi, j'ai 69 ans. Je referme un peu tout, plein de choses avec ce livre-là. Et je me demandais, mais qu'est-ce que je vais écrire maintenant? Et tout d'un coup, j'ai un livre qui me dit, mais non, t'es pas mort. Mais non, t'es pas vieux, arrête tes conneries, etc. Et pour moi, j'ai un livre, tout d'un coup, qui me redonne foi, c'est-à-dire, je suis désolé de le dire comme ça, mais qui me redonne foi, c'est-à-dire que oui, il y a des mômes de 20 ans qui écrivent des choses qui sont magnifiques, etc. Et en même temps, c'est comme un bon vin, on peut continuer, on peut écrire, on peut penser, on peut se dire que cette mort-là, oui, il y a la vie devant, il y a la vie derrière soi, et c'est parce qu'on a une vie derrière qu'on a une vie devant, et c'est évident. Moi, je suis, c'est ce qui m'a beaucoup touché dans ce livre, c'est que tout d'un coup, je me retrouvais entouré par une cohorte de grands noms qui avaient un certain âge, et je me disais, c'est possible, et c'est jouable. Et ça, moi, je trouve que, enfin, je sais qu'il y a plein d'autres choses dans ce livre-là. Mais pour quelqu'un d'un certain âge qui se pose la question de quand est-ce qu'on arrête d'écrire, quand est-ce qu'on n'est plus vu comme un écrivain, quand est-ce qu'on n'a plus de, par exemple, de prix littéraire parce qu'il y a des âges, parce que, etc. Par exemple, non, mais j'en ai eu trois déjà, c'est bien. Mais tout d'un coup, moi, je trouve que ce livre-là, il remet le cœur à l'heure. Et ça, je trouve ça assez formidable. Hors tout, hors tout, sachez qu'il remet le cœur à l'heure à des gens dont le cœur a peut-être a cessé un petit peu de battre.
Non, mais c'est ça le but du livre. C'est, bon, il se trouve que je l'ai écrit en plus au moment où j'étais affecté par un deuil qui me touchait. C'était la fin de mon enseignement. Bon, c'était un moment de mélancolie. Et sortir de la mélancolie, c'est à travers l'écriture. L'écriture, la lecture est liée à la mélancolie.
Elle reconstruit.
Mais elle reconstruit.
Tout à fait.
Et ce qui est très beau, et d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est qu'en lisant Antoine Compagnon, on se rend compte que Enfant de salaud ne signe évidemment pas la fin de votre littérature, mais par contre la fin, je pense, d'un cycle, du cycle avec votre père. C'est-à-dire qu'on est, on n'est pas dans une pluralité, c'est terminé, c'est la fin, mais c'est une fin, quelque chose se termine pour donner lieu à autre chose. Est-ce que ça, vous l'avez senti, que
oui,
quelque chose se terminait?
Oui, c'est fini. Il y a eu 3 livres sur le père. Maintenant, je sais d'où je viens, je sais qui il est. Et le livre d'Antoine Compagnon me dit que je peux encore continuer ailleurs, dans d'autres territoires. Ah, ce mot territoire, pourquoi je l'ai employé? Je déteste. Il n'y a plus de communes, il n'y a plus de villages, il y a des territoires maintenant. Dans le territoire de ma cuisine, en ce moment, je suis en train de faire une pizza. Je ne supporte pas ce livre. Je m'en veux de l'avoir fait. Je tiens à m'en excuser. Mais en tout cas, oui, c'est-à-dire que le père, c'est fini. Pour moi, et se pose le problème, et pour tout auteur, je suppose, quand il y a un grand cycle comme ça, parce que quand même, c'est le 10e livre qui tourne autour, de façon ou d'une autre, même si je parle de l'Irlande, l'image du traître dans l'Irlande, c'est l'image de mon père. Lorsque je parle enfin, il est partout, brusquement, ça s'arrête parce que ça s'arrête, parce qu'il faut que ça s'arrête et parce que je veux que ça s'arrête. Mais tout d'un coup, moi, je lis un livre et puis j'entends des gens et tout d'un coup, je me dis, il y a d'autres lieux à explorer. Et en fait, c'est un livre d'explorateur, ça. C'est ça que j'aime. À dire que je suis obligé de quitter encore un mot que je n'aime pas, la zone de confort. Je déteste ça, mais je trouve pas autre chose. Mais en tout cas, je vais être obligé de penser autrement parce que je suis plus l'enfant de mon père. Je suis un homme. Et cet homme-là a un certain âge maintenant, et cet homme-là va être obligé de trouver autre chose pour parler aux hommes et aux femmes qui vont essayer peut-être de me lire. Donc c'est un... Voilà, c'est...
Mais on retrouve chez vous, Noël Châtelet, cette idée d'exploration, explorer des... Non pas des territoires, on pourrait dire, mais des géographies intérieures, et ce qui est très beau, et vous avez bien fait de le préciser, c'est absolument pas un livre, on pourrait dire, orgueilleux, narcissique. C'est-à-dire que vous allez chercher quelque chose qui est, on parlait de Sarraute avant, une sorte de tropisme. Elle avait un de ses textes, c'était entre la vie et la mort. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se joue? Et vous dites à la fin de Laisse courir ta main, je cherche quelque chose qui m'échappe de l'écriture que je traque inlassablement, une part d'énigme qui me résiste dans ce qui s'accomplit sous ma main. Est-ce que cette idée, c'est aussi de chercher, de débusquer cette énigme sans jamais la résoudre, d'où le moteur tout le temps de l'écriture et d'où le fait de se questionner soi-même, comme vous l'avez dit aussi très justement, sans se, je veux dire, en étant en guerre.
Il ne faut pas résoudre l'énigme. Je pense que c'est ça la mort et la fin de l'écriture et la fin de la création. C'est pas pour mettre de la clarté que j'ai écrit ce livre. C'est au contraire pour rendre encore plus confuses les choses, d'une certaine manière, mais avec la conscience qu'elles le sont. Et j'avais besoin de ça à ce moment-là, parce que je ne voulais plus écrire de livres. C'est ça qui c'est le point de départ, c'est ça.
C'est une question qui se pose, hein,
voilà.
Pour nous.
Et j'ai même dit, en venant à Brive, c'est mon dernier Brive.
C'était quand, ça?
Dites non.
Non.
J'ai dit, c'est mon dernier brief, peut-être que c'est mon dernier livre, et c'est un livre qui n'aurait pas dû être. Parce que j'étais partie autre chose, j'étais partie dans cette pièce de théâtre, je voulais faire autre chose de l'écriture, voilà. Et je n'y suis pas arrivée. Si j'ai écrit ce livre, c'est parce que ce livre, au fond, d'une certaine manière, ressemblait un petit peu à la pièce de théâtre qui ne s'est pas montée. J'ai repris la forme dialoguée et je me suis mise en scène moi-même en disant, vous voulez pas de ma pièce, ben vous allez en avoir une autre, voilà. Et cette autre, elle ne dépend que de moi, que de ma force, que de mon courage, voilà. Et puis il y a aussi le fait qu'avec cette immobilité à laquelle j'ai été confrontée pendant 4 mois, j'ai eu le sentiment de quelque chose de la mort m'a approchée. la finitude, le sentiment de la finitude m'a approché. Je me suis dit quelque chose, voilà, c'est fini. Il y a quelque chose de ta vie qui est fini, il y a de choses de ton aventure de femme qui est terminée, etc. Et il fallait absolument que il n'y avait que le corps qui pouvait me sauver de cette peur-là de disparaître,
mais
si je puis dire.
Était rose quand même.
Mais pas n'importe quel corps, pas n'importe quelle partie du corps, en effet la main, et en ajoutant que j'écris à la main, je suis quand même un dinosaure, moi. J'écris à la main. Donc, et en plus, dans le livre, parce que il y a un double sens de la main, hein, je fais aussi une main courante. J'écris à la main, je fais une main courante contre moi-même, non en fait, contre X, qui se révélera être moi-même. C'est pour dire, hein, je ne fais pas de cadeaux. Hein. Mais je m'amuse bien hein, quand même. Je m'amuse bien et au fond, je revis en me charcutant, en me faisant mal, en me torturant. Quoi, je veux dire. Mais ce n'est pas une attitude masochiste. C'est simplement pour vérifier que je suis bien vivante encore. Et que ce corps qui ne bouge plus n'est pas la preuve que ma tête s'est arrêtée, que c'est fini, voilà, que tout est fini. C'est ça l'idée.
Le chapitre qui m'a le plus touché dans le livre de Noël, c'est le chapitre sur sa mère, qui est intitulé... Enfin, ça reprend le livre, puisqu'au fond, elle passe à travers tous les livres qu'elle a publiés. C'est le chapitre qu'elle consacre à la dernière leçon, c'est-à-dire à la mort de sa mère, qui est une mort décidée. Et bon, et c'est l'énigme qui... Enfin, vous parliez de l'énigme, c'est peut-être le plus troublant à cause de ça, à cause de l'énigme de la décision de la mort et de l'attitude des autres autour de la mort.
Oui, mais qui est passée par elle vers moi, par un apprentissage. Oui. Et cet apprentissage, il s'est fait à travers... il s'est fait corps et âme, si je puis dire. Voilà. Et il s'est fait aussi parce que sans doute elle était sage-femme et que peut-être seule une sage-femme peut considérer la vie comme un début et une fin, sachant que la fin fait partie du début et voilà. Vous disiez Serge que vous aviez fermé une porte. Hein enfin, vous, quelque
oui,
chose
mais,
était...
mais en même temps, il a dit mais qu'il ne tournait jamais la page.
Voilà. Mais vous en ouvrez une autre. Et ça me rappelle la fin de votre livre, que je trouve magnifique, la dernière phrase de votre livre. Je peux la lire?
C'est Beckett, hein, c'est pas moi.
Oui.
C'est Beckett qui est magnifique.
Oui, c'est Beckett, ouais, voilà.
C'est l'expression de Beckett qui sur l'expression « gagner la sortie ».«
Gagner la sortie oh. ». Vous pouvez me le... c'est la... Oui, c'est, la toute c'est dernière la... phrase, elle m'a terriblement émue, puis Beckett, elle me rappelait quelque chose dont je voudrais
c'est
vous parler.
Beckett, non, c'est la. Qui s'appelle Fin de partie, que c'est ça
fin
que je
partie.
Commande.
La sortie, justement, c'est comment sortir? Il faut se diriger vers elle, mais c'est aussi l'acquérir, la mériter, la réussir, la sortie. Comme si une sortie, ça ne se perdait pas ou ne se dérobait jamais. Une sortie, ça se gagne, ça se conquiert, ça s'emporte, ça se prend. Comme on dit, prenez la porte. Et j'ai eu un choc parce que je me suis rappelé de ce qu'avait fait mon frère cadet un jour à l'âge de 15 ans dans la classe, au lycée. Il était assez, il se laissait pas faire quoi. Et le professeur lui dit monsieur, prenez la porte. Et c'était un grand gaillard, il est allé vers la porte, il a pris la porte, il l'a sorti de ses gonds, il a dit et j'en fais quoi maintenant? Et je trouve ça formidable parce que ça voulait dire je prends la porte certes, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant de cette porte? Et il a été, c'était tellement vrai et tellement beau qu'il a été privé de lycée pendant plusieurs mois. Oui, non, il a été puni. Il a été puni parce que quand on prend la porte, on est censé la prendre et ne plus jamais revenir. Eh bien, moi, je pense qu'il faut, il faut jamais fermer les portes. Ou en tout cas, si on en ferme une, il faut qu'une autre s'ouvre tout de suite. Et c'est rassurant de savoir qu'elles vont s'ouvrir, ces portes. Et pas seulement pour les écrivains, pour nous tous qui sommes dans cette pièce, qui avons des sentiments que des... pour des raisons diverses et variées et liées à nos vies, que des choses s'arrêtent. Mais la finitude n'est jamais là où on croit. Jamais.
Pendant que j'écrivais ce livre, donc c'était au printemps dernier, je préparais les émissions sur Colette pour France Inter qui ont été diffusées cet été. Et Colette est quelqu'un qui a toujours nié qu'elle était écrivain. Elle a toujours dit qu'elle écrivait pour gagner sa vie, exclusivement pour gagner sa vie, qu'elle aurait pu être actrice, qu'elle aurait pu être mime, ce qu'elle a été aussi, qu'elle aurait pu avoir vendre des cosmétiques, ce qu'elle a fait aussi, qu'elle écrivait qu'il n'y avait aucun investissement dans le fait d'écrire, que c'était un pur gagne-pain.
C'est ce qu'on appelle du déni.
Et puis elle n'a jamais su arrêter d'écrire. Elle a écrit L'étoile Vespère, Le fanal bleu, justement, ce sont des œuvres qui, à mes yeux, représentent bien le sublime sénile, puisque ce n'est plus dans aucun genre. On a franchi toutes les barrières. Et à la toute fin, elle a concédé qu'elle était écrivain pour la raison qu'elle n'arrivait pas à arrêter. Et c'était ça qui établissait le fait qu'elle avait été écrivain.
Et vous savez comment elle a écrit les derniers livres ?
Couché.
Et j'écris couché moi-même, oui. Depuis toujours.
Couché. C'est magnifique.
Et
photos.
Elle avait fait construire un pupitre qui faisait le tour du lit, si vous voulez. Voilà.
Il y a de magnifiques
et moi aussi, j'écris sur un pupitre.
C'est un endroit... Un pupitre en acajou.
Absolument. Oui,
que lui avait fait faire la princesse de Polignac. Voilà. Donc, elle avait toute sa vie sur ce pupitre en acajou magnifique.
Voilà. Et seule la main courait.
Et alors, tu écris couché ?
J'écris couché.
Ah oui, ben moi de plus en plus aussi. mais non pas à la
plume. Je ne veux pas te faire de proposition, mais...
Mais non
c'est
pas à la plume, c'est avec coucher avec un ordinateur.
Il y a quelques années, c'est très vieux. Je suis resté 34 ans à Libération, donc c'est il y a 15 ans peut-être. Non, oui, il y a plus que ça même. Libération avait fait un très beau, parce que je rebondis sur Beckett, avait fait un très beau supplément. Pourquoi écrivez-vous ? Et la question avait été posée à plein de grands auteurs. Et tout, c'était des pages et des pages et des pages. Et Beckett, il y avait une phrase qu'on a mise sur une page entière, évidemment. Bon qu'à ça. Et on a trouvé ça juste. Et après, je pense que tous les auteurs autour ont dû s'en mordre les doigts parce que tout d'un coup, ce bon qu'à ça était immense. Donc, bravo, M. Beckett.
Ce qui m'a frappé en relisant aussi un des textes d'Antoine Compagnon, La littérature, pourquoi faire ? Vous avez ces deux phrases, la littérature déconcerte, dérange, déroute, dépayse plus que les discours philosophiques, sociologiques ou psychologiques, parce qu'elle fait appel aux émotions et à l'empathie. Ainsi parcourt-elle des régions de l'expérience que les autres discours négligent, mais que la fiction reconnaît dans leurs détails. J'avais l'impression d'avoir une analyse incroyablement pertinente de l'effet qu'on a quand on termine le livre de Sorge Chalandon. C'est-à-dire que la fiction est dans le détail. C'est-à-dire que la morale presque de votre écriture, c'est le détail. Et on pense notamment à cette scène inaugurale écrite par coups comme ça de fragments, de blocs, avec presque ce silence entre chaque paragraphe. C'est ça, Sorge Chalandon aussi, la fiction, on la reconnaît dans les détails, dans la précision des détails.
Mais c'est ce qui est dommage, c'est que le mot détail ait été sali par quelqu'un dans un discours. Mais oui...
Oui, c'est-à-dire le on peut dire le particulier.
Le particulier, j'aime bien.
C'est ça qui...
Oui, j'aime bien.
La littérature j'aime bien a affaire au particulier.
J'aime bien le particulier et surtout aussi une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que moi, donc je suis journaliste aussi, et la littérature, enfin en tout cas la fiction, m'a permis de me réapproprier. La première personne du singulier, je ne peux pas l'employer dans un journal. Je ne peux pas dire « je rentre... » Je suis en Somalie et j'assis, je peux pas faire ça. En revanche, dans un roman, j'ai écrit des romans quand j'en avais marre de devoir pleurer les autres, en fait. Moi, j'ai été correspondant de guerre pendant 25 ans et pendant 25 ans, j'ai vu des gens qui pleuraient, des gens qui souffraient, des gens qui criaient, des gens qui haïssaient, des gens qui tuaient, des gens qui mouraient, etc. Et quand je me suis mise à écrire, moi, d'abord, même si je prenais des masques de carnaval dans un roman, je suis metteur en scène de théâtre. Dans un autre roman, je suis restaurateur de tableaux du 19e. Dans un autre, je suis luthier. Mais à chaque fois, je peux dire « je ». C'est-à-dire que je revendique, je reprends le droit avec ces masques qui sont transparents. Mais enfin, je peux pleurer, quoi. J'ai le droit. Ce que le journaliste m'interdit absolument, et c'est normal. Personne n'achète un journal pour pleurer avec le journaliste. Je déteste les journalistes qui font un papier en expliquant comment ils ont eu courage pour arriver sur une ligne de front. Mais c'est son boulot, bonhomme. Je déteste ça. Lorsqu'on va quelque part, c'est pour écouter les autres. Et quand moi j'écris un roman, c'est pour avoir le droit que ma plainte ou ma douleur ou mon effroi puisse être à l'unisson des autres. Chose qui m'est privée, et c'est encore une fois c'est normal, mais chose que je n'ai pas pu faire ailleurs. Et donc pour moi la fiction, le roman, c'est aussi une façon de vivre ce que je n'ai pas, ce que mon métier, ce que ma vie m'a interdit de vivre.
Moi, ça me touche ce qu'il est en train de dire, puis ça rejoint d'ailleurs ce que vous disiez à l'instant, Antoine. Le pouvoir faire avec l'émotion que donne la littérature, à laquelle j'ai résisté, moi, très longtemps. J'ai commencé comme essayiste, et je ne voulais pas aller du côté de la littérature. Et en fait, j'y suis allée en passant de ma thèse sur les rapports du corps avec la nourriture à un livre de nouvelles qui s'appelle Histoire de bouche, qui reprenait les thématiques, mais sous une forme incarnée, avec des personnes qui devenaient des personnages. Voilà, hein. Et là, j'ai fait une découverte extraordinaire qui ne m'a plus jamais quittée. C'est qu'en effet, la supériorité de la fiction sur la littérature est sur l'essai est tellement énorme parce que justement, elle s'adresse, la littérature, à l'émotion. Elle est dans l'empathie. Elle est dans l'empathie et elle permet aussi de faire entrer le lecteur dans cette empathie. Parce que moi, j'avais beaucoup travaillé, par exemple, dans mon essai sur la nourriture, sur les maladies, les déviances alimentaires, les anorexies, les boulimies, etc. Et quand j'ai mis en scène une boulimique et une anorexie, j'ai dû rentrer vraiment dans leur corps, dans leur chair, éprouver avec elles ce qu'elles éprouvaient pour pouvoir véritablement le faire comprendre et le partager, le faire partager aussi. Je crois que cette dimension de l'empathie, au fond, elle touche à ce qu'on appelle le jeu universel, non ? D'une certaine façon.
Oui, le jeu universel.
Voilà. Et elle nous permet non seulement d'écrire sur nous-mêmes quand nous écrivons, mais d'écrire en écoutant celui qui nous lit ou celle qui nous lit. Et pour moi, ça a été toujours extrêmement important. C'est sans doute aussi parce que je suis une enseignante, je pense. C'est nos côtés passeurs, on ne peut pas s'en empêcher, n'est-ce pas ?
Mais c'est la beauté de la littérature, enfin, pour revenir à ce beau mot de particulier, enfin, c'est Proust parlait de la cime du particulier, et c'est seulement par la cime du particulier que l'on peut écrire un livre de valeur universelle, enfin, qui touche tout le monde. Mais c'est ça le but de la littérature, c'est le passage de la cime du particulier à ce qui touchera tous les lecteurs.
Pourquoi la solitude de l'écrivain ? Moi, j'y crois pas trop, j'y crois pas trop à la solitude de l'écrivain. Je pense qu'au moment où il écrit, il est avec tout le monde, il est avec le monde entier, il est avec tous les êtres qui composent ce monde.
Mais il est très seul aussi. Enfin, moi, je ne sais pas quand.
Mais ça, c'est votre côté bègue, peut-être.
Peut-être.
Non, mais là, on retouche à la question des deux corps. Quand,
oui.
Quand on écrit, oui. On a deux corps.
Oui, absolument. On a
un corps qui est tout à fait intime et tout à fait particulier et singulier. Et puis, il y a en effet cette. Il est peuplé par tout un monde d'humanité. Moi, j'ai souvent dit que il ne peut pas y avoir d'écrivain méchant. Pour écrire, il faut avoir un certain amour de l'humanité.
Il y en a pourtant.
Il y en a. On ne citera pas. Hein.
Non, on ne va pas citer. Il y a même des écrivains qui se servent de leurs mots pour tuer.
Par exemple, bon, quand je disais ça, j'ai souvent dit ça dans des cours. Je prenais l'exemple de Céline. Mais... Céline, eh bien, malgré tout ce qu'on peut dire sur le mauvais à propos de Céline, il y a chez Céline une dimension d'amour sans laquelle on ne peut pas écrire, qui est...
Pas dans ses essais, nous sommes d'accord.
Comment ? Ah, pas dans ses essais, pas dans ses essais. Mais dans Le Voyage au bout de la nuit, moi, j'ai une impatience de lire enfin Casse-pipe, puisqu'on a trouvé les manuscrits. Le petit livre Casse-pipe, pour moi, c'est l'un des plus beaux de Céline. Et puis maintenant, l'idée qu'on va avoir dans un an ou deux... Casse-pipe en entier, ou en tout cas ce qu'on en a retrouvé, c'est un magnifique cadeau. Et dans ces grands livres de Céline, je dis, il y a de l'amour. Sans quoi il n'y aurait pas ce qui nous touche dans cette littérature. Mais en effet, pas dans les pamphlets.
Merci infiniment Antoine Compagnon, Noël Châtelet et Sœur Chalandon. Vous allez donc dans quelques instants gagner la sortie, comme on l'a dit avec Beckett.
Il n'y a pas de porte.
Il n'y a pas de porte. On ne peut donc pas gagner la sortie. On est dans une pièce de théâtre de Beckett. Merci infiniment à vous trois.
Merci à vous.
Merci beaucoup.